Merci à la rédaction de Radio Okapi qui nous permet ainsi de diffuser en direct cette conférence de presse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles auditeurs de Radio Okapi, chers collègues de la presse, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de tous les mercredis. Au sommaire de notre présentation d'aujourd'hui, nous vous parlerons des activités de la police MONUSCO. Nous évoquerons également les activités menées par l'équipe pays des Nations Unies présentée par Florence Marshall, chargée de communication et coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies. Et enfin, le lieutenant-colonel Amouzou Kodio-Martin nous présentera le tableau sécuritaire à travers le pays. Je rappelle que nos collègues de l'équipe pays sont avec nous dans la salle et pourront répondre à vos éventuelles questions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme vous pouvez le constater, nous avons un plateau fourni. Ainsi, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités, à savoir José María Aranaz, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui nous fera le point des principales tendances observées au cours du mois de février 2016 concernant les violations des droits de l'homme. Nous avons également sur ce plateau M. Pascal Villeneuve, représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en République démocratique du Congo, qui partagera avec nous les informations relatives aux activités de l'UNICEF, mais interviendra aussi dans le cadre de la Journée internationale de l'eau qui sera célébrée le 23 mars 2016 et dont le thème retenu cette année par son agence est « L'eau et le changement climatique ». Bonjour messieurs, bienvenue à notre rencontre hebdomadaire de ce mercredi. Alors, tout de suite, sans tarder, nous parlons des activités menées par la police MONUSCO. Ainsi, le vendredi 11 mars 2016, s'est déroulée la cérémonie d'inauguration du commissariat urbain de Soukissa, comportant deux cellules de garde à vue. Présidée par le commissaire spécial adjoint en charge des questions politiques, juridiques et administratives de la province de l'Ituri, M. Unega Ege Ichen, en la présence du directeur du bureau de la MONUSCO Ituri, du chef du secteur UNPOL, ainsi que celle des autorités politiques, administratives, policières et judiciaires de cette province. Dans son mot de circonstance, il a tenu à saluer et témoigner sa gratitude à la MONUSCO en général, à la section d'appui à la justice et à la composante police en particulier, qui ont initié et réalisé la construction de cet édifice dans le cadre des projets à impact rapide de la MONUSCO. Le but visé est de séparer les policiers et militaires des autres délinquants de droit commun dans les différents cachots de la ville capitale de Bouya. Le coût global de la réalisation s'élève à 24 868 $ américains et les travaux ont duré 5 mois. À cette occasion, les bénéficiaires ont remercié et exprimé leur reconnaissance à la MONUSCO pour l'appui constant qu'elle ne cesse de manifester à l'endroit des juridictions du pays. Ils ont particulièrement remercié et félicité le chef de bureau pour les efforts consentis dans ce sens. Sur l'initiative du secteur UNPOL de Dungu et en prélude aux prochaines échéances électorales, une section de recyclage en maintien et rétablissement de l'ordre public, gestes et techniques professionnelles d'intervention, ainsi que des cours sur les droits de l'homme, a démarré le 7 mars au profit de 91 apprenants de la police nationale congolaise des Zéro, comprenant 11 cadres et 80 agents, dont 7 femmes. Les enseignements sont dispensés par les formateurs de la police MONUSCO, assistés de leurs collègues de la police nationale congolaise. Cette formation prendra fin le 18 mars. Donc, je passe tout de suite la parole à ma consoeur Florence Marshall pour nous présenter les activités menées par l'équipe pays des Nations Unies. Florence, le micro est à vous.
Merci Félix, bonjour à tous. Un rappel pour commencer cette intervention, c'est ce lundi 21 mars que la Cour pénale internationale rendra son jugement en audience publique dans l'affaire Jean-Pierre Bemba, en présence de toutes les parties, donc lundi 21 mars à 14h, heure locale de La Haye et de Kinshasa. Jean-Pierre Bemba serait pénalement responsable en tant que chef militaire de deux chefs de crimes contre l'humanité, viol et meurtre, et de trois chefs de crimes de guerre, viol, meurtre et pillage, prétendument commis dans le cadre de la situation en République centrafricaine en 2002 et 2003. L'audience pourra être suivie en direct sur le site internet de la CPI www.icc-cpi.inc. Plus de 400 policières ont été sensibilisées au VIH par l'ONU-SIDA et ses partenaires hier à Kinshasa dans le cadre des célébrations de la Journée internationale de la femme. Cette activité, réalisée en partenariat avec la police nationale congolaise, avait pour objectif d'informer les policières sur les différents modes de transmission du VIH, la prévention et le traitement du SIDA, ainsi que le dépistage volontaire. Voilà.
Merci à Florence. Nous nous rendons tout de suite à Goma pour retrouver le lieutenant-colonel Amouzou. Mon colonel, la parole est à vous.
Merci Félice, bonjour à tous. Durant la semaine écoulée, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo a été jugée relativement calme dans tout le pays, sauf dans les provinces de l'Est, où l'activisme des groupes armés mêlés de conflits interethniques perturbe la quiétude des populations civiles. Face à cette situation d'insécurité récurrente, la force de la MONUSCO, conformément à son mandat et en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo, poursuit ses activités militaires contre ces groupes armés afin de protéger les populations civiles. Dans les provinces de Haut et de Bas-Ouélé, une accalmie relative a été observée pendant la période sous-examen. Toutefois, la force de la MONUSCO apporte son appui aux troupes des FARDC engagées dans la lutte contre les éléments réfractaires de l'armée de résistance du Seigneur RA. En Ituri, il a été enregistré des attaques, meurtres, enlèvements et pillages de biens de valeur commis par des éléments du Front de résistance patriotique de l'Ituri FRPI dans 5 localités du sud du territoire d'Irumu. Des troupes de FARDC appuyées par la force de la MONUSCO déployées dans ces localités ont repoussé les assaillants et poursuivre des patrouilles intensives afin de protéger les populations civiles. Au Nord Kivu, l'environnement sécuritaire est dominé par des activités négatives des groupes armés contre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité congolaises. Pour contrer ces actions négatives, les FARDC, appuyées par la force de la MONUSCO, poursuivent des actions offensives contre ces différents groupes armés afin de les contraindre à se rendre et protéger les populations civiles. Dans le territoire de Beni, ces activités militaires ont réduit le mouvement des éléments de l'Alliance des forces démocratiques ADF. Dans les autres territoires, les affrontements entre les coalitions Maïmaï Niatura, l'FDRR et l'Alliance des forces démocratiques pour un Congo libre et souverain, d'une part, et les autres coalitions Maïmaï d'une part ont provoqué des déplacements des populations civiles. Les FARDC poursuivent les opérations contre ces différentes coalitions. La force de la MONUSCO en appui aux FARDC effectue des patrouilles intensives dans ces différents territoires pour protéger les populations civiles. Par ailleurs, la propagation du conflit interethnique dans la province du Nord Kivu reste une réelle préoccupation quant à la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Au chapitre des reddictions dans la province, du 9 mars 2016 à ce jour, 9 éléments de groupes armés, donc 5 FDRR, se sont rendus aux troupes de la force de la MONUSCO. Au sud Kivu et au Tanganyika, malgré l'activisme des groupes armés, une accalmie relative a été observée pendant la période sous-examen. Cependant, les forces onusiennes et congolaises poursuivent les activités militaires contre ces groupes armés encore actifs afin de protéger les populations civiles. Enfin, la force de la MONUSCO a mené 1372 patrouilles armées, dont 453 nocturnes et fourni 106 escortes pendant la période sous-examen. Merci.
Grand merci au lieutenant-colonel Amouzou Kodjo-Martin, le porte-parole militaire qui à partir de Goma nous a gratifié d'un tableau sécuritaire assez complet. Retour tout de suite à Kinshasa et comme je vous l'annonçais au début de cette conférence de presse, nous avons aujourd'hui deux invités. Je vais commencer par Monsieur Pascal Villeneuve qui est le chef d'agence de l'UNICEF. Bonjour Monsieur Villeneuve, vous avez le micro.
C'est déjà.
D'accord. Merci beaucoup Félix et grand merci pour l'invitation et c'est toujours un plaisir de pouvoir rencontrer la presse congolaise et de pouvoir dialoguer autour de questions qui sont évidemment très importantes pour les populations telles que la question de l'accès à l'eau potable. Comme vous l'avez souligné, Félix, le 22 mars prochain, nous célébrerons la journée mondiale de l'eau, qui, depuis 1993, a été consacrée à, afin de sensibiliser la communauté internationale sur l'importance de cette question de l'accès à l'eau. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Je pense que tout le monde est évidemment conscient que l'eau, c'est la vie, et en particulier l'eau potable est une condition, avoir accès à de l'eau potable est une condition essentielle à en particulier la santé des enfants, la santé des populations. En RDC, nous savons que un certain nombre de maladies sont liées à justement un problème d'accès à de l'eau potable. On parle de maladies d'origine hydrique, la diarrhée, les maladies diarrhéiques sont évidemment une des principales causes de mortalité des jeunes enfants en RDC, même si depuis quelques années la mortalité des jeunes enfants a baissé de façon significative. Mais les maladies diarrhéiques restent l'une des principales causes de mortalité des jeunes enfants. En outre, évidemment, on ne peut pas parler de maladie diarrhéique sans parler de choléra. Nous savons que le choléra est endémique dans certaines parties de la RDC, et le meilleur moyen de prévenir le choléra, c'est d'assurer évidemment l'accès à de l'eau potable. L'UNICEF tient à effectivement relever le fait que dans un contexte mondial marqué par le changement climatique, il y a des liens importants entre l'accès à l'eau potable et les changements climatiques. Dans certains pays, le changement climatique se manifeste par des inondations. Nous avons eu d'ailleurs des inondations récemment en RDC. C'est probablement ça lié à ce phénomène, au phénomène de El Niño, et les inondations provoquent un certain nombre évidemment de problèmes pour les populations, mais notamment cela peut dans certains cas modifier les sources d'approvisionnement en eau potable. Le changement climatique se manifeste également par des phénomènes de sécheresse dans des pays qui jusqu'à présent en étaient dépourvus, et cela évidemment affecte également non seulement l'accès à l'eau potable pour les populations, mais aussi la production agricole, ce qui au bout du compte affecte la sécurité alimentaire et donc la situation nutritionnelle des populations, et en particulier des jeunes enfants qui sont particulièrement vulnérables. Alors, en RDC, selon les statistiques les plus récentes, l'accès à l'eau potable est meilleur en milieu urbain qu'en milieu rural. À peu près 80% des populations urbaines ont accès à de l'eau potable. En milieu rural, ce n'est que de l'ordre de 30%. Moyenne nationale de l'ordre de 50%. Donc c'est un petit peu la question du verre qui est à la fois à moitié plein ou à moitié vide. Il y a eu d'un côté des progrès, mais effectivement il reste encore beaucoup de défis pour assurer à chaque Congolais, à chaque enfant vivant au Congo, un accès à de l'eau potable. Alors, il y a des efforts évidemment en cours pour améliorer cette situation. Du côté de l'UNICEF, nous appuyons le ministère de la Santé pour la mise en œuvre d'un programme qui s'appelle le Programme national de villages et écoles assainis, et qui vise à responsabiliser les communautés dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable, mais aussi, et tout est lié évidemment, l'amélioration des conditions sanitaires et de l'assainissement dans ces communautés. Nous sommes maintenant dans une deuxième phase de ce programme. À la fin de la première phase, plus de 3600 villages et plus de 1000 écoles ont été assainis. Et dans la deuxième phase qui est en cours, l'objectif et d'atteindre le double de villages. et d'écoles. Donc c'est un programme très important qui a permis à la fin de la première phase d'atteindre plus de 2,5 millions de Congolais et plus de 300 000 enfants donc allant dans ces écoles qui offrent de meilleures conditions en termes d'assainissement et d'accès à l'eau potable. Je voudrais peut-être pour terminer mon propos mentionner que la RDC s'est portée candidate à devenir membre d'un partenariat global sur l'eau et l'assainissement. Ce partenariat mondial vise à fournir des appuis, à mobiliser les partenaires techniques et financiers, à mobiliser des ressources et des fonds additionnels pour permettre aux pays en voie de développement qui sont membres de ce partenariat mondial de disposer des moyens, des ressources et des outils pour atteindre l'objectif de développement durable relatif à cette problématique. En ce moment, d'ailleurs, se tient à Addis Abeba une conférence internationale organisée par ce partenariat mondial et Monsieur le ministre du Plan et de la Révolution de la Modernité est présent à Addis avec sa délégation pour discuter donc de la situation de la RDC et faire rentrer la RDC dans ce partenariat mondial. Voilà, merci.
Oui, tout le remerciement à Monsieur Pascal Villeneuve pour toutes ces informations partagées avec nous et malgré l'image du verre moitié plein, moitié vide, nous permet de considérer que l'espoir est permis avec tous ces programmes mis en œuvre par l'UNICEF en étroite collaboration avec les autorités congolaises. Donc sans transition, je passe la parole à mon deuxième invité qu'on ne présente plus, Monsieur José Maria Aranaz, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui, compte tenu de la situation aujourd'hui prévalant en République démocratique du Congo, vient partager avec nous les principales tendances observées durant le mois de février. Bonjour Monsieur Aranaz, c'est vrai que le front social est assez chaud et je sais que vous avez beaucoup d'informations à partager avec nous. Vous avez la parole.
Merci beaucoup Félix. Bonjour collègues, on va commencer pour parler des rapports du mois de février. Dans les mois passés, le BCNUDH a documenté au moins 332 violations des droits de l'homme dans les territoires de la République démocratique du Congo, qui représente une base de 19% par rapport au mois de janvier. Les provinces les plus touchées par les violations des droits de l'homme sont comme toujours à l'est, Uvira, Nord Kivu et Kivu Sud. Les responsables des violations des droits de l'homme le mois passé, c'était 65% les agents étatiques. Ça correspond premièrement à la PNC, après les FRDC et après les ANR. Par rapport des groupes armés, les plus actifs étaient les FRPI et après les FDLR. Les agents de l'État ont été aussi responsables d'au moins 9 victimes d'exécutions extrajudiciaires. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté aussi 61 violations des droits de l'homme et libertés fondamentales qui en des relations avec l'espace démocratique. Et aussi, d'une manière positive, on salue les mesures de libération par les autorités de la population emprisonnée qui peut favoriser les meilleures conditions de détention et aussi dans le cadre de la lutte contre l'impunité. On veut aussi commander les efforts des autorités pour la condamnation de 3 militaires de FRDC ou membres de la PNC pour violation des droits de l'homme. À Beni, au 6 février, le bureau a participé dans les cérémonies d'inauguration des parquets de grande instance à Beni avec trois nouveaux magistrats pour combattre la violence sexuelle. Ça, c'est une partie des efforts du gouvernement avec l'appui des Nations Unies de lutte contre l'impunité en matière de violence sexuelle. Plus récemment, hier, on a constaté l'arrestation de 18 membres de l'organisation Lucha a Goma, qui fait un proteste pacifique en commémoration du premier anniversaire de prison de ses camarades Fred Bauma et Yves Makambala. Comme vous savez, le bureau et le système des Nations Unies a condamné la répression des activités de la société civile et a montré la préoccupation à la restriction de l'espace politique qui peut affecter à la crédibilité du processus électoral à l'avenir. Merci beaucoup, Félix. Je suis prêt pour répondre aux questions s'il y a.
Oui, merci à José María Arana.